Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de vous installer. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour cette conférence publique. Bienvenue aux personnes qui nous suivent sur YouTube en direct ou en différé. Je vais commencer pour débuter cette présentation par faire référence à notre mois de décembre qui a été particulièrement dur ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, puisque nous avons eu à regretter le décès de trois de nos collègues. Donc, je vais juste en parler rapidement. Nous avons eu à regretter le décès de Karim Benabed, qui était chercheur ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a également exercé des responsabilités à la direction de notre institut. Nous avons eu à regretter le décès de Gilles Missonnier, qui était un jeune ingénieur retraité de l'IAP. Et puis, de nouveau en décembre, de notre collègue chercheur Yannick Mélier, qui était très impliqué, qui était responsable scientifique de la mission Euclide. Il avait fait une conférence ici même il y a quelques années, donc n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube dans les rediffusions. Donc je vous propose qu'on dédie cette soirée à la mémoire de nos trois collègues. Et puis, puisque c'est la nouvelle année, espérons que cette année 2026 sera un petit peu moins lourde pour l'IAP que notre mois de décembre, qu'elle sera riche en découvertes, en sciences et en conférences. Et donc, je vous annonce les conférences à venir pour le mois prochain, le 3 février. Nous recevrons notre collègue Jean-Philippe Puzan, donc de l'IAP, qui nous présentera une conférence intitulée « Le modèle cosmologique standard entre succès et tension ». Donc, elle sera à suivre sur YouTube en direct. Et pour venir ici, vous pouvez vous inscrire en ligne à partir de demain. Nous recevrons le 3 mars Caroline Fraissinet du LATMOS, qui nous présentera une conférence consacrée à l'exobiologie. Le 7 avril, nous recevrons Pauline Zarouk du LPNHE qui nous présentera une conférence sur la nature de l'énergie noire en lien avec le projet DESI. Et le 5 mai, Dimitra Koutroupma du LATMOS qui nous parlera de météo spatiale en lien avec la mission qui sera bientôt lancée, la mission SMILE. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue François Hammer de l'Observatoire de Paris. Donc François, tu travailles beaucoup, tu as travaillé en cosmologie, en antigravitationnelle, l'étude des galaxies, leur morphologie, leur formation. Tu es responsable scientifique également de plusieurs instruments au Very Large Telescope et au Chili. Tu as été directeur du laboratoire GEPI à l'Observatoire de Paris, au moment où tu as participé à sa création. Tes travaux t'ont valu différents prix et puis tu es également très impliqué dans la diffusion de la culture scientifique. Tu as notamment publié il y a peu un livre intitulé « Voyage de la Terre aux confins de l'univers » donc qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Tu es impliqué également donc, en faisant des conférences publiques. Donc, celle de ce soir est intitulée « Dynamique des galaxies du groupe local, quel est leur contenu en matière sombre ?» Donc nous allons t'écouter et puis après la présentation, je pourrai prendre des questions dans le public et te les transmettre. Également, les internautes qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions sur le chat et je les retranscrirai à la fin. Voilà, je t'en prie.
Et là, c'est mieux. Ah, très bien. Merci beaucoup d'être venu par ces temps un peu glacés et glissants. J'ai vraiment l'honneur d'avoir été invité aux conférences mensuelles de l'IAP, qui sont vraiment un très bel exemple de diffusion de la science. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de laboratoires aimeraient faire, et c'est très très bien que ça se passe là. J'ai été aussi très touché par les décès qui se sont passés, en particulier celui de Yannick Mélier, que je connaissais très bien. Effectivement, et c'est très très bien de pouvoir dédier cette conférence, d'autant qu'on parle de quelque chose qui est clairement quelque chose que Yannick était très intéressé, c'est la matière sombre, toute la question de la matière sombre. Donc, je vais vous faire un petit peu un préambule. Parce que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des résultats de recherche assez récents, hein, qui ont moins de 2 ans, voire qui sont même encore plus récents que ça. Et le principe, la question de la matière sombre, vous savez, c'est cette matière qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais réussi à détecter. Et c'est quelque chose qui a été révélé à la communauté astrophysique dans les années 70 et 80, en particulier par Vera Rubin, Albert Bosma, qui ont découvert que les courbes de rotation des galaxies étaient plates, ne vous inquiétez pas, on va y revenir, et ensuite par Mark Aronson, qui était un astronome américain, qui lui a découvert que les petites galaxies naines, ça s'agitait trop, donc on ne comprenait pas, il fallait rajouter une composante. Et un peu la motivation de notre groupe, c'est de dire, ben, les années 70-80, on avait des instrumentations très rudimentaires, on manquait de connaissances sur énormément de choses, et c'est intéressant de voir, de revisiter tout ça. Alors, pourquoi revisiter tout ça? Énormément de travaux ont été faits, en particulier des gigantesques surveys, et l'idée, donc, c'est essayer de revisiter cette question de la matière sombre qui hante, je dirais, un petit peu la cosmologie et l'astrophysique moderne. Pour ça, on a besoin de méthodes, et les méthodes qui sont absolument essentielles. Pour comprendre la matière sombre, il faut comprendre la dynamique, c'est-à-dire tous les effets dynamiques, et vraiment de le comprendre vraiment extrêmement précisément. Et puis, surtout, ne pas oublier, il y a des composantes dans le gaz, dans l'univers, qui ne sont pas très bien connues, et on va en parler aussi, qui sont le gaz, et en particulier gaz ionisé. Et donc, c'est un petit peu avec ce préambule que je voudrais engager un peu la discussion. Le plan de la présentation va être assez simple. On va partir de notre galaxie, la Voie lactée, et on va essayer de décrire les mesures qui ont été faites par un satellite européen qui s'appelle Gaïa, qui a fait une révolution considérable dans toute l'astrophysique. Ensuite, on parlera de la Voie lactée et on verra qu'on peut mesurer sa masse. En astronomie, c'est toujours un gros problème. On a toujours du mal à mesurer la masse, en particulier des objets les plus étendus. Et la Voie lactée, notre galaxie, est un objet extrêmement étendu. Ensuite, on parlera des galaxies externes, on comparera un peu notre Voie lactée aux autres, hein, voir qu'est-ce qu'on trouve dans les autres galaxies. Et puis, pour finalement s'intéresser à la question, et c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact hein, en 2023 et 2024, on a révisé en fait, la masse de notre Voie lactée, on l'a fait maigrir, si vous préférez, d'un facteur de l'ordre de 5. C'est beaucoup 5. Hein. Imaginez que ça vous arrive, ça pourrait poser des problèmes. Donc il y a eu beaucoup de discussions, de polémiques, et c'est vraiment l'activité scientifique. Vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia, vous tapez Voie lactée, vous allez retrouver ce genre de polémiques, de discussions. Et puis on va aller encore un petit cran plus loin, parce que non seulement on peut mesurer la masse de la galaxie, mais même on sait faire beaucoup plus. On sait comment elle s'est formée. On sait exactement maintenant, on sait vraiment très précisément comment elle s'est formée et comment elle a réussi à accréter d'autres objets. Donc on connaît son histoire d'accrétion et ça a des conséquences sur des petits objets qui sont les petites galaxies naines qui l'entourent. Et les conséquences sont assez importantes en ce qui concerne la matière sombre et ça, vous le verrez dans le courant de l'exposé. Alors la première chose, partons de notre galaxie. La courbe de rotation de galaxies et les mesures qui sont faites par Gaïa. Alors la première chose, c'est quelque chose que vous connaissez. Ce que vous voyez ici, de ce côté-là, vous voyez l'hémisphère nord. Et ici, vous avez l'hémisphère sud. Et vous voyez en fait que la Voie lactée, en fait, pourquoi on l'appelle Voie lactée? Ben, c'est simplement parce qu'elle coupe le ciel en deux, dans les deux hémisphères. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait la totalité en fait, des deux hémisphères, c'est-à-dire 360 degrés. Et vous pouvez voir aussi un certain nombre de... Vous voyez qu'en fait, les habitants de l'hémisphère sud ont un petit peu plus de chance que nous parce qu'ils voient beaucoup mieux le centre de la Voie lactée. Alors, quand vous avez... Le ciel n'est rien d'autre qu'une sphère et quand vous voulez transformer, par exemple, une map monde en une carte, vous allez devoir redresser la sphère. Hein, c'est une opération mathématique qui est assez simple et qui donne ceci. Alors, il faudrait peut-être enlever peut-être un tout petit peu de lumière, si c'était possible. Je ne sais pas. C'est... Voilà. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la Voie lactée telle qu'on la verrait si on était très éloigné d'elle. En fait, si on était à une distance de 100 000 années-lumière d'elle. D'accord ? Une distance qui correspond à la distance que parcourt la lumière en 100 000 ans. Alors, vous voyez que la galaxie, en fait, montre effectivement une structure. Vous avez clairement le centre de la Voie lactée ici, et puis vous allez retrouver ce qu'on appelle les bras, hein, le disque de la galaxie. Et puis vous pouvez aussi, on en parlera, voir qu'il y a d'autres galaxies. Ici, c'est les nuages de Magellan. C'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Et donc, maintenant, on commence à avoir une idée de notre galaxie. Mais le problème, c'est que nous sommes dans la galaxie. Donc nous voyons uniquement la galaxie comme si elle était vue uniquement de côté. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous voulez comprendre un objet, ben, vous aimeriez bien savoir comment il est, quelle est sa forme. Alors, ça a été fait au départ grâce aux observations infrarouges. Alors, pourquoi infrarouge? C'est parce que, vous voyez, au centre de la Voie lactée, en fait, il y a énormément de zones sombres. Ces zones sombres sont rien d'autre que de la poussière. Et qu'est-ce qu'elle fait, la poussière? La poussière, elle nous cache la lumière. La lumière est absorbée par la poussière, réémise en infrarouge. Mais par contre, si vous observez en infrarouge, là, vous allez pouvoir voir les détails dans la galaxie et chercher, en fait, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce disque. Alors, une autre manip qui a énormément aidé à faire ça, ça a été Gaïa aussi, parce que Gaïa a permis de préciser la distance des étoiles. Et du coup, on a pu faire une transformation. Et la transformation, la voici. Voici notre galaxie telle qu'elle apparaîtrait si on pouvait la voir de face. Donc, notre galaxie, c'est une gigantesque galaxie spirale, avec au centre une gigantesque barre. Et puis, elle a une originalité, elle a plusieurs bras. Elle a en fait quatre bras. Et notre Soleil se trouve à peu près à mi-chemin entre le centre et le bord. Alors, on va continuer un petit peu ce détail avec la même image sur laquelle on va superposer l'image telle qu'on l'observe de la Voie lactée. Et là, ce que vous voyez, c'est une image, hein, c'est pas une photo, hein, c'est reconstruit, bien sûr, de ce qu'est notre galaxie. Alors, comme je vous le disais, nous-mêmes, on se trouve exactement, précisément, dans le bras d'Orion, à peu près entre le centre et le bord. On est aussi dans un bras, hein, on appelle ça un sous-bras, en fait. Et la question qu'on va se poser immédiatement, c'est comment ça tourne. Et là, je vais un peu vous poser la question. À votre avis, quand on regarde la galaxie dans cette direction-là, dans quel sens elle tourne? Est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Aiguille d'une montre. Merci beaucoup. Alors ça, vous pouvez le voir très facilement. Pour ceux qui veulent faire l'expérience, vous faites couler de l'eau dans un évier. Vous mettez un peu de savon, par exemple. Vous laissez couler, vous allez voir des bras spiraux qui vont se former. Le mécanisme est équivalent, analogue. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, ça va être la question des courbes de rotation. Comment on sait dans quel sens elle tourne quand on la regarde comme ça? De toute façon, on ne peut pas la regarder comme ça, c'est beaucoup trop loin. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut mesurer la masse d'une galaxie? Et pour mesurer la masse d'une galaxie, il nous faut ce qu'on appelle une courbe de rotation. Courbe de rotation, c'est rien d'autre que la vitesse en fonction du rayon. À partir du moment où vous avez une courbe de rotation qui va suffisamment loin, vous allez pouvoir mesurer la masse suffisamment loin, sous certaines conditions. On va beaucoup en parler. Avant le satellite de l'ESA Gaïa, avant ce satellite, on détectait en fait uniquement les composantes radiales de la vitesse. C'est-à-dire on regardait si un objet s'approchait de nous ou s'éloignait de nous. Mais on n'avait aucune idée comment cet objet voyageait dans le ciel. Pour ça, il fallait ce qu'on appelle un satellite astrométrique, qui est Gaïa. Et le fait que nous soyons à l'intérieur du disque était assez catastrophique, parce que quand vous êtes à l'intérieur d'un objet et que vous essayez de connaître les mouvements des objets que vous voyez, évidemment, il y a plein de problèmes géométriques qui vont se poser, et en particulier sur tous les rayons qui sont très externes, qui sont au-delà du Soleil, en particulier dans toute cette région-là. Alors, ce n'est pas de chance, parce que si vous voulez avoir la masse de la Voie lactée, vous devez avoir la courbe de rotation le plus loin possible. Donc, on était à une époque, avant Gaïa, on était à une époque où la courbe de rotation de la Voie lactée, elle était la plus mauvaise d'entre toutes les galaxies. On avait des courbes de rotation de plein de galaxies, 10 000, mais celle de la Voie lactée, de notre galaxie, on ne savait pas la mesurer du tout. Et c'est ça qu'on obtenait. Alors, vous voyez, à l'intérieur, donc vitesse en fonction du rayon. À l'intérieur, en fait, on a une courbe de rotation dont on peut faire quelque chose, mais vous voyez le problème à l'extérieur. Alors Yoshua Sofue, qui est un astronome japonais qui vraiment a été le pionnier dans l'estimation de la courbe de rotation de la Voie lactée, disait la courbe de rotation extérieure est rudimentaire. C'est peut-être un peu pire que ça, même, on peut dire. Vous voyez qu'on a du mal à tracer une ligne dans ce bazar. Alors, le Soleil se trouve ici, donc vous voyez que tout ce qui est interne à la courbe de rotation est relativement bien déterminé, tout ce qui est externe est extrêmement mal déterminé. Et puis ça, c'est juste pour vous rappeler la différence entre année-lumière et kiloparsec. Juste avant Gaïa, plusieurs surveys ont été faits, parce qu'on voulait vraiment trouver quelle est la masse d'une voie lactée. On vit dans la voie lactée, on est dans la voie lactée, on ne connaît pas du tout sa masse. Vous voyez, les résultats juste avant Gaïa, c'était ça. Vous voyez, vous avez les points verts avec les barres d'erreur qui sont gigantesques. Là, les barres d'erreur sont bien meilleures, ce qui est tout à fait normal dans cette région-là. Mais vous voyez que les différents résultats, c'est quelque peu confus. Et puis est arrivé Gaïa. Et alors Gaïa, lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement il mesure les vitesses des objets qui viennent vers nous ou qui s'éloignent de nous, mais il mesure les vitesses dans le ciel. Vous savez, par exemple, le ciel des Égyptiens n'était pas exactement le même que le nôtre. Pourquoi ? Parce que les étoiles ont des mouvements dans le ciel, ils sont tout petits, et la seule façon de les mesurer, c'est de faire des passages en permanence, de mesurer les positions des étoiles et de regarder comment elles ont bougé. C'est ce que fait le satellite Gaïa. Et le résultat, c'est les points que vous voyez là. Vous voyez que c'est une précision telle que les barres d'erreur sont dans les points. Vous voyez, c'est des gains, un gain en précision qui est de l'ordre de 50 à 100. Et avec, on le voit d'ailleurs là, les points verts fluctuent, il y a des fluctuations un peu dans tous les sens. Là, c'est pratiquement une ligne droite, quasiment une ligne droite. Donc une courbe de rotation extrêmement précise. Pourquoi ? Parce que là, on a accès absolument à tout. On a accès à l'ensemble de l'information. Et cette courbe de rotation, du coup, est assez simple. Elle est basée sur 23 000 étoiles, donc c'est un gros échantillon. Et on peut dire qu'on connaît maintenant la courbe de rotation de notre galaxie. On va passer, bien sûr, à la suite. Est-ce qu'on peut estimer la masse à partir de là ? Alors, la première chose qu'il faut dire, et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui est général en physique. En physique, si vous connaissez la position en trois dimensions d'un objet, les vitesses en trois dimensions d'un objet, vous connaissez ce qu'on appelle l'espace des phases en six dimensions, et le résultat net, c'est que vous savez le passé et l'avenir de l'objet que vous observez, dans le cas précis d'une étoile. Vous savez où elle sera dans un million d'années. Vous savez où elle était il y a un million d'années. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précis qui permet en fait, du coup, de comprendre comment les étoiles tournent dans une galaxie. Et puis, si vous avez, pour venir maintenant aux questions de masse, imaginez maintenant que vous avez une étoile, vous connaissez parfaitement son mouvement. C'est un mouvement de rotation parfait, à une distance que vous connaissez extrêmement précisément, grâce à la dynamique, vous connaissez très précisément la masse à l'intérieur de son orbite. Et c'est ça, c'est ainsi qu'une courbe de rotation peut nous donner la masse d'une galaxie. Alors, le résultat que je vous ai montré, la première courbe de rotation de Gaïa, de la Voie lactée, a été faite avec la deuxième distribution de données de Gaïa. Et puis maintenant, on est à la troisième distribution avec un gain considérable parce qu'on a beaucoup plus d'étoiles. On est passé de 7 millions à 33 millions. On a beaucoup plus de précision sur les fameux mouvements dans le ciel, les mouvements propres, donc sur les vitesses. Et on a aussi beaucoup plus de précision sur ce qu'on appelle les parallaxes, c'est-à-dire sur les distances. C'est-à-dire que là, maintenant, on est capable d'aller plus loin que ce qu'ont fait nos collègues allemands et américains. Alors, immédiatement, et c'est ce qui se passe en science, quand vous avez ce genre de choses, toutes les équipes se précipitent évidemment sur les données parce que Gaïa distribue publiquement toutes les données. Ces données à tout le monde. Tout le monde peut les utiliser. Deux équipes en particulier se sont distinguées, les deux dirigées d'ailleurs par des astronomes chinois. Et le premier a travaillé sur plus d'un million d'étoiles dans le disque de la galaxie pour essayer de trouver comment le disque de la galaxie tournait, quelle était sa rotation. Et puis l'autre groupe a essayé, lui, d'être un peu plus précis, d'avoir moins d'étoiles, 33 000 quand même, moins d'étoiles, mais d'avoir une estimation plus précise des distances. Ce qui est important, puisque la courbe de rotation, c'est la vitesse en fonction de la distance. Ce qui est intéressant, c'est que les deux groupes ont trouvé le même résultat, en particulier dans les régions qui nous intéressent, les régions externes. Les deux montrent une décroissance au début et ensuite une décroissance un peu plus grande. Alors, c'était des études très intéressantes qui ont été quand même très critiquées parce que les gens ont dit « Oui, mais c'est bien gentil, votre histoire, mais quand vous observez des étoiles, un grand nombre d'étoiles, vous avez tout un tas d'effets systématiques. Le disque de la galaxie peut être un peu tordu, il peut être un petit peu pas à l'équilibre, il peut y avoir des effets dynamiques qui sont cachés sous ces points. » Et ça, c'est ce que nous avons fait avec comme idée de dire que la courbe de rotation, pour faire vraiment une analyse complète, on avait vraiment besoin de connaître la distribution des étoiles à très grand rayon. Alors, ça s'appelle l'équation de Jeans. C'est une équation un peu complexe, mais qui nécessite un certain nombre de connaissances. En particulier, est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles au bord du disque ou très peu? Ça va nous changer, la résolution de l'équation de Jeans. On peut se poser la question, effectivement, si le disque n'est pas tordu. En fait, le disque est un peu tordu sur les bords. On appelle ça un gauchissement, un warp en anglais. Et il y a un warp de l'ordre de quelques degrés sur le bord du disque de la Voie lactée. Alors ça peut changer aussi les choses. C'est un petit peu comme un disque micro-sillon qui serait un peu tordu. Et puis, il y a aussi dans le disque toutes les étoiles, et notre Soleil aussi, on en reparlera. Notre Soleil tourne pratiquement sur une trajectoire quasiment circulaire, pratiquement parfaitement circulaire. Il a donc sa vitesse de rotation. On peut mesurer la masse à l'intérieur de l'orbite du Soleil. Mais il y a quelques petits mouvements du Soleil qui sont perpendiculaires à ça. Il y a des mouvements perpendiculaires au disque et des mouvements sur une orbite radiale. Ils sont tout petits. Pour vous donner un exemple, le Soleil tourne à une vitesse de 239 km par seconde. Les petits mouvements perpendiculaires sont de l'ordre de 10 km par seconde. Donc ils sont négligeables en première approximation. Mais on doit en tenir compte si on veut avoir quelque chose de précis. Alors pour traiter tout ça, on a fait un nombre assez grand, je dirais, de simulations et de vérifications. En particulier, on a coupé la galaxie en plein de morceaux. On a vérifié si on trouvait la même courbe de rotation dans les différents morceaux, en dessous du disque, au-dessus du disque, sur un bord, sur l'autre bord, pour vérifier justement tous ces effets-là. Et ça a donné cette courbe de rotation que vous voyez ici. Donc à nouveau, vitesse en fonction du rayon. Et les points rouges correspondent, en fait, et en particulier les barres rouges correspondent aux effets des systématiques. Le résultat est assez semblable, c'est-à-dire qu'on a une chute de la vitesse avec le rayon, et puis une chute qui a tendance à s'agrandir avec le rayon. Alors on va voir que tout ça a pas mal de connaissances, de conséquences, parce que grâce à ça, en fait, on arrive maintenant à déterminer, mais de façon précise, la masse de notre galaxie. Et c'est la révision à la baisse dont je vous parlais, par rapport à ce qu'on pensait auparavant. Donc le résultat est ici, en fait. Gaïa a détecté, et c'est la première fois sur notre galaxie, bien sûr, ce qu'on appelle le déclin keplérien de la courbe de rotation. En fait, si vous regardez la courbe de rotation ici, vous voyez que... Je ne sais pas si ça va marcher longtemps, lui. Oui. Vous voyez qu'à grand rayon, il y a une forte décroissance de la courbe de rotation. Les vitesses décroissent très vite. En fait, elles perdent 30 km par seconde entre une vingtaine de kiloparsecs et 25 kiloparsecs. Cette décroissance est keplérienne parce qu'elle est prévue, elle a été prévue par Kepler et correspond en fait, elle nous indique qu'à l'extérieur de ce rayon, à l'extérieur de 17-21 kiloparsecs, en fait, toute la masse de la Voie lactée est là. Il n'y a pas de masse au-delà. S'il y avait une masse au-delà, on n'aurait pas voir ce déclin keplérien. Alors pour illustrer ça, prenons le cas le plus simple. un système planétaire, le nôtre, c'est encore plus simple. Et puis, essayons de vérifier cette relation. En fait, la relation est très très simple. C'est une relation entre l'énergie, la force de gravité et la force inertielle. Quand vous tournez dans un manège, vous tournez très vite dans un manège, vous êtes poussé vers l'extérieur. C'est la force inertielle. Pour ne pas être poussé vers l'extérieur, pour les planètes, pour qu'elles ne soient pas éjectées, il faut qu'elles soient attirées par une masse. Cette masse, c'est le Soleil. Donc vous avez une compensation exacte de la rotation d'un système, d'accord, par la gravité. Et la relation peut être transcrite ici par cette relation entre la vitesse et le rayon, c'est-à-dire que la vitesse est proportionnelle à l'inverse de la racine du rayon. Alors ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, si vous regardez Saturne et la Terre, Saturne est exactement 10 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Pour rester stable sur son orbite, elle doit compenser l'attraction du Soleil. L'attraction du Soleil au niveau de Saturne est beaucoup moins importante que celle qu'au niveau de la Terre, puisque la Terre est beaucoup plus proche. D'accord ? Et bien vous vous rendez compte que la vitesse de la Terre est 3 fois plus grande que la vitesse de Saturne. Si vous prenez la distance, un facteur 10 en distance, racine de 10, c'est approximativement 3. D'accord ? Et effectivement, vous allez retrouver exactement le rapport entre les deux vitesses. Donc vous avez la loi de Kepler, vous dit rien d'autre que ça. Je peux inverser. Si vous connaissez le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire sa vitesse, si vous connaissez sa distance au Soleil, ben vous connaissez la masse du Soleil. Et vous trouverez la même masse du Soleil si vous êtes sur Saturne et vous faites la même chose. Vous voyez ? C'est vraiment les lois de Kepler. Et elles marchent, pourquoi ? Ben c'est parce que le Soleil représente la quasi-totalité de la masse du système solaire. Mais alors maintenant, revenons aux galaxies. Parce qu'une galaxie, ce n'est pas un Soleil. Une galaxie, c'est étendu, c'est beaucoup plus compliqué. Grâce au fait qu'on voit cette décroissance keplérienne, on s'aperçoit en fait que la galaxie n'est pas si grande qu'on le pensait auparavant. Elle fait seulement une vingtaine de kiloparsecs. L'essentiel de la masse est dans cet ensemble-là. Et du coup, on peut la mesurer, puisqu'on l'a encadrée. Et c'est ce qui est fait par ce simple modèle ici, dans lequel vous voyez la courbe noire représente la totalité de la matière, là, ce qu'on appelle la courbe de rotation dynamique, c'est la dynamique de notre voie lactée qui montre ça. La composante rouge représente la matière sombre, et la composante bleue représente la matière qu'on connaît, les étoiles et le gaz neutre en particulier. Et là, le résultat a beaucoup de retentissement, parce qu'on trouvait une masse, excusez du peu, qui était extrêmement faible comparée à ce qu'on pensait auparavant, c'est-à-dire 206 milliards de masses solaires. Alors, excusez du peu, 206 milliards de masses solaires, ça paraît quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait, c'est beaucoup moins que ce que pensaient les cosmologistes, et pratiquement 5 fois moins. Donc ça a eu un peu d'impact, vous pouvez le comprendre, c'est-à-dire que 30% de la matière, en fait, semble être de la matière ordinaire. C'est-à-dire qu'il semble pas y avoir trop de masse sombre. Alors, un avantage extraordinaire pour notre galaxie, pour la Voie lactée, pour comprendre notre galaxie, c'est qu'on connaît maintenant, et à nouveau grâce au satellite Gaïa, on connaît l'histoire de notre galaxie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire connaître l'histoire d'une galaxie ? Les galaxies se forment par accrétion successive de petites galaxies. Une grande galaxie va capturer une galaxie plus petite et au fur et à mesure, vous allez avoir ce qu'on appelle un arbre de fusion et vous allez fabriquer des galaxies de plus en plus grandes pour arriver à notre galaxie. Au départ, notre galaxie était absolument minuscule. On y reviendra. Cette histoire, maintenant, est très connue parce qu'on a réussi à trouver les débris de ces anciennes collisions. Et en fait, notre galaxie, elle est extrêmement calme. On est dans une galaxie super, parce qu'elle est calme, elle est tranquille, et depuis 9 milliards d'années, elle n'a pas eu de collision. Il y a eu une toute petite collision, mais elle n'a pas eu de grande collision. Donc on est dans un endroit très calme, très agréable, on peut le dire, une galaxie très simple, dans laquelle en fait, l'évolution s'est faite de façon très douce après cette fusion. Alors pourquoi c'est important ? Ben, c'est important parce que si vous vous intéressez à la dynamique, en fait, ça veut dire que cette fusion, maintenant, on a absorbé en fait l'ensemble de ce choc qui était énorme à l'époque, et que maintenant l'ensemble du disque de la Voie lactée est extrêmement stable. Et il est beaucoup plus stable que la moyenne des autres galaxies, puisque les autres galaxies, leur fusion, leur dernière grande fusion, c'était il y a 6 milliards d'années. Alors pourquoi ces nombres d'années sont importants ? Ben, c'est parce que, en dynamique, si vous voulez savoir si un système est à l'équilibre ou non, ça s'appelle le théorème du Viriel, et c'est des expériences qui ont été faites sur des étoiles, que nous-mêmes avons poursuivies sur le gaz, en fait, vous apercevez que si un système n'a pas fait 3 orbites au minimum autour d'un autre, il n'est pas satellite, il n'est pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des déviations, et ça veut dire que vous ne pouvez pas mesurer la masse. Hein, je vous rappelais, le Soleil, c'est exactement l'inverse. Notre Soleil a déjà fait 25 tours autour du centre de la Voie lactée, et avec le Soleil, vous pouvez mesurer la masse de la Voie lactée à l'intérieur de l'orbite. C'est vrai aussi, on a eu une toute petite expérience de collision avec une galaxie naine, et comme le dit son nom, la galaxie du Sagittaire, une galaxie naine, c'est une galaxie qui ne faisait même pas un cinquantième de notre Voie lactée. C'est-à-dire, c'est un tout petit accident, hein, imaginez. Gaia Sossé-Enceladus, qui est la grande collision, c'était typiquement un quart. Hein, si vous avez un accident de voiture avec une voiture qui fait un quart de votre masse, ça fait mal. Par contre, si vous êtes très en dessous d'un cinquantième, je peux vous dire, il ne va pas vous arriver grand-chose. Donc c'est la même chose pour les galaxies, c'est une analogie un peu simple. Ce qui est extraordinaire à nouveau avec Gaïa, c'est qu'on a pu, je vous avais dit, si vous connaissez l'espace en 6 dimensions, vous êtes capable de tracer la trajectoire d'une étoile. Vous la connaissez en 6 dimensions. Ben, on s'est rendu compte que la quasi-totalité des étoiles les plus éloignées, d'accord, celles qui vont nous permettre de mesurer la masse, ben, ont des trajectoires parfaitement circulaires. C'est-à-dire qu'on a un disque de la Voie lactée qui est extrêmement calme, d'une part, et extrêmement à l'équilibre dynamique. Et là arrive la grande contradiction. Pourquoi ces travaux-là ont eu un tel impact ? L'article de mon étudiant qui a décrit cette courbe de rotation avec déclin keplérien était le troisième article le plus lu en astrophysique en 2023. Vous voyez, il y a eu quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est parce que, bah, comme je vous l'avais rappelé, on avait déjà travaillé sur les courbes de rotation depuis exactement un siècle. Hein, la première courbe de rotation était faite par des astronomes américains sur des grands télescopes de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé ? Ben, ils ont regardé notre grande voisine, la galaxie la plus proche de nous, la grande galaxie. Et ils ont trouvé, effectivement, ben, il semblait que cette courbe de rotation était plate, comme vous voyez ici. Et ça c'est ce qu'ont publié Vera Rubin et ses collègues. Donc une courbe de rotation en fonction, la vitesse en fonction du centre. Ce qu'ils ont observé, c'est cela. Et ce qu'on aurait attendu s'il y avait une décroissance keplérienne de cette courbe de rotation, c'était ceci. Alors la conséquence de cette courbe de rotation, bah, c'est qu'une courbe de rotation, c'est rien d'autre, comme je vous le rappelais, l'équilibre entre la vitesse d'un objet qui est en rotation, d'accord, avec la masse gravitationnelle qui l'entoure. D'accord. Et on voit que le décrochage commence aux grandes distances. Donc en fait, la seule façon de l'expliquer à cette époque-là, c'était de dire, bah, il nous faut de la masse, il nous faut de la matière, c'est cette fameuse matière invisible, c'est cette fameuse masse manquante, cette matière sombre. Et ça a été vraiment la première preuve de l'existence de cette matière sombre. Donc la question qui se pose, c'est que... les galaxies externes, pour beaucoup de galaxies externes, on trouve des courbes de rotation comme celles que je viens de vous montrer, plates, c'est-à-dire la vitesse reste constante avec le rayon. Et par contre, notre Voie lactée, on voit ce déclin képlérien. Pourquoi une telle différence ? Donc la première chose, c'est que notre galaxie, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment particulièrement calme. Donc le disque est vraiment particulièrement à l'équilibre. Pour les autres galaxies, on peut se poser toutes les questions d'absence d'équilibre, qui peut transformer la courbe de rotation et qui peut faire que la courbe de rotation, avec la courbe de rotation, vous ne pouvez plus mesurer la masse. Alors ça, c'est un premier effet. Mais c'est même pire que ça, parce que si vous regardez dans notre Voie lactée, en fait, vous apercevez que la matière ordinaire représente 30% de la masse. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 70% pour la matière sombre. On attendait plutôt 90%. Vous voyez la différence des... Pour les courbes de rotation plates des galaxies, on trouve que la matière ordinaire représente que 10%. Dans l'univers, 15,7%. Donc il y a un problème sur la cosmologie. Il y a un problème de prédiction et d'observation. Alors, est-ce que c'est un problème de méthode ? Je vous ai parlé, courbe de rotation, on l'a obtenue avec Gaïa en obtenant ce fameux espace à 6 dimensions dans lequel on est capable de tout savoir, hein, de savoir le passé, le futur, et donc connaître la masse. Pour les galaxies externes, bien sûr, il n'y a pas de satellites européens qui ont été lancés dans une autre galaxie, donc on utilise des moyens totalement différents, et la méthode, c'est la spectroscopie, c'est-à-dire que vous observez cette galaxie-là, et vous apercevez que cette partie-là se rapproche de nous, et en spectroscopie, vous pouvez mesurer sa vitesse, et alors que cette partie-là s'éloigne de nous, c'est-à-dire que l'objet tourne dans cette direction-là. Donc grâce à ça, vous pouvez faire un peu la même chose que ce que je vous ai raconté, fabriquer une courbe de rotation, et puis mesurer la masse à partir de cette courbe de rotation. Alors tout ça semble très bien. Maintenant, comparons les deux méthodes. Dans une première méthode, vous avez absolument l'ensemble des informations sur toutes les étoiles que vous observez. Vous savez exactement ce qui va leur arriver dans l'avenir, ce qui leur arrivait dans le passé, et vous connaissez exactement la masse intérieure à ces objets. Vous travaillez dans un espace à 6 dimensions. En spectroscopie, vous travaillez dans un simple espace à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, dans un cas, vous pouvez tester si l'orbite, et c'est ce que je vous ai montré, l'orbite d'une étoile est circulaire. Dans l'autre cas, vous n'en avez pas la moindre idée. Dans un cas, vous pouvez savoir s'il n'y a pas une étoile qui a carrément des vitesses qui sont absolument anormales, qui ne correspondent pas à des vitesses circulaires, donc vous devez les exclure parce que vous ne pouvez pas mesurer la masse avec elles. Dans le cas des galaxies externes, il n'en est pas question, vous ne pouvez pas tester la stabilité. Vous pouvez la supposer, ce qui est complètement différent. Donc il y a une question de méthodologie avec un aspect supplémentaire, c'est que nous avons la chance dans la Voie lactée d'être une galaxie calme et en même temps d'avoir un magnifique satellite qui a été lancé par l'ESA. Donc maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller voir ce qui se passe dans les autres galaxies ? C'est-à-dire, notre galaxie, nous connaissons maintenant son histoire parfaitement. Les autres galaxies, nous les connaissons très difficilement. Donc l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il y a une contradiction ? Il faut essayer de comprendre d'où vient la contradiction. Donc l'idée, c'est d'étudier d'autres galaxies, des galaxies externes, et puis de voir qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe. Et la première galaxie, tout seigneur, tout honneur, c'est la galaxie d'Andromède, notre grande voisine, qui apparemment, en 1970, avait une courbe de rotation plate. Qu'est-ce qui se passe dans cet objet pour qu'il y ait une courbe de rotation plate ? Alors, c'est exactement la même image, la même courbe de rotation. Et la seule chose que j'ai ajoutée ici, est-ce que ce halo massif dans la galaxie d'Andromède, est-ce qu'il est si massif que ça ? Est-ce que c'est bien correct qu'il soit si massif que ça ? Et en fait, pour essayer de comprendre une galaxie, il faut connaître son histoire. C'est vrai pour tout, en fait. C'est plus général qu'en science. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'un objet, d'une personne, d'un animal ou quoi que ce soit, vous allez louper pas mal de choses. C'est pareil pour les galaxies pour lesquelles vous voulez mesurer des quantités comme la masse, comme la taille, etc. Alors, pendant très longtemps, jusque dans les années 2000, on pensait à l'époque que la galaxie d'Andromède, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà observé la galaxie d'Andromède, j'espère, c'est le joyau de l'hémisphère nord, ça s'observe avec des jumelles, c'est entre la constellation de Pégase et celle du Sagittaire, c'est absolument magnifique, mais il faut l'observer avec des jumelles sans lune. La galaxie d'Andromède donc, était considérée comme une jumelle, c'est exactement comme la Voie lactée, et c'est très pratique d'avoir une jumelle parce que vous êtes à l'extérieur et donc vous pouvez mesurer toutes les propriétés. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Vera Rubin, avec la découverte de la courbe de rotation d'Andromède, des courbes de rotation plates et de l'identification de la matière sombre. En fait, on a maintenant fait des relevés considérables et qui ont été faits au télescope américain du Keck, au télescope du Canada-France Hawaii Telescope, et on s'est rendu compte, en fait, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout une jumelle de notre Voie lactée, c'est quelque chose de complètement différent. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est quand on regarde à l'extérieur d'Andromède, on voit énormément de structures qu'on voit pas du tout dans la Voie lactée. La deuxième chose, c'est si vous prenez une étoile comme le Soleil, à la même distance du centre d'Andromède, vous la placez dans Andromède, exactement la même distance, elle a le même âge que le Soleil. Je vous ai dit, le Soleil il tourne à 230 km par seconde autour du centre. Et il a des vitesses perpendiculaires qui sont de l'ordre de 10, c'est-à-dire négligeables. La même étoile d'Andromède, elle tourne exactement à la même vitesse, mais par contre, les vitesses perpendiculaires dépassent 100 km par seconde. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un disque tout simple, en fait, Andromède, c'est un intermédiaire, on appelle ça un disque épais, c'est un intermédiaire entre un disque et puis des vitesses aléatoires. Si vous préférez, une autre façon de vous le dire, Andromède, les étoiles d'Andromède ne tournent pas complètement en rond, pour simplifier le langage. On s'est rendu compte aussi qu'il y a 3 milliards d'années, un peu moins de 3 milliards d'années, il y a eu un énorme épisode de formation d'étoiles dans Andromède. Et en fait, on explique tout ça, et je vais vous le montrer, on explique tout ça par une gigantesque fusion qui a eu lieu il y a 2 à 3 milliards d'années. Alors, ce que vous voyez là, c'est une vidéo, en fait, de la fusion. Donc, ça a commencé, deux galaxies ont fait une première rencontre il y a 7 milliards d'années. Là, on va très, très vite parce que les milliards d'années, vous voyez, c'est long. Donc, il faut accélérer un peu sinon, on ne s'arrêterait pas. Et vous voyez que quand les deux galaxies fusionnent, en fait, elles forment, vous voyez, en vert, on forme ce qu'on appelle le disque épais, c'est les mouvements latéraux des étoiles. Et puis, en bleu, on forme le disque qui est fait d'étoiles jeunes, qui est celui le disque mince de la galaxie d'Andromède. Et puis, on fabrique une galaxie, on la compare à la galaxie observée, et on trouve, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de coïncidences. Alors, on a été un peu plus loin. Je vous ai parlé que dans le halo de M31, il y avait énormément de structures, il y avait plein de choses qui se baladaient. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut aussi reconstruire ces structures? Et voilà, ça va commencer exactement de la même façon, avec un premier passage entre les deux galaxies qui sont en interaction il y a 7 milliards d'années. Et puis 4 milliards d'années, les deux se rencontrent. Alors là, cette fois, on va dézoomer pour voir les grandes structures. Et puis on va augmenter le contraste parce que les grandes structures sont généralement très peu lumineuses. Et ce que vous voyez ici, c'est des courants géants d'étoiles. Vous voyez, vous avez une gigantesque queue de marée et dont le matériel retombe vers le centre de la galaxie pour former des gigantesques boucles. C'est vraiment des boucles. D'accord ? Ça se calcule en mathématiques, ces boucles. Et puis ensuite, on va remettre tout ça dans le plan du ciel, hein, pour bien l'orienter. Et on va s'apercevoir en fait que ces boucles expliquent en particulier, vous voyez, la flèche indique ce gigantesque courant qui était inexpliqué auparavant, et puis on explique toutes les sous-structures qui sont autour de cet objet. Et ça, c'est les observations, c'est ce qui est observé, et la comparaison ensuite entre les deux, on est capable de reproduire le courant géant et toutes les structures du disque. Donc on a été capable de reconstruire en interne, ainsi qu'en externe, l'ensemble de la galaxie d'Andromède. Alors ça, c'est quelque chose qui a complètement été compris. Et Ben, on s'est posé la question immédiatement. On a un modèle qui est surcontraint, qui contient beaucoup plus de contraintes que de paramètres. Il permet maintenant aujourd'hui de prédire des événements qui sont observés, qui ont été observés après qu'on ait fait ce modèle. Donc on peut se poser la question, ben, c'est quoi la courbe de rotation d'Andromède? Et c'est ce qu'on a fait. Et la courbe de rotation ici, vous voyez, donc à nouveau, c'est vitesse de rotation en fonction du rayon. Les points que vous voyez en cyan, c'est les observations, hein, les points avec les barres d'erreur. Et puis en noir, vous avez la simulation. Et les deux, en fait, correspondent exactement. Le modèle est capable de les reproduire, à condition de choisir la masse. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est arrivé à deux points essentiels. C'est qu'une collision aussi violente que ça, entre deux galaxies, dont une a une masse un quart de l'autre, d'accord, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ça perturbe dynamiquement complètement l'objet. Et en fait, vous apercevez que les étoiles qui sont situées à plus de 25 kg par sec, ou le gaz, par exemple, la courbe de rotation est faite dans le gaz pour celle-là, il n'a même pas eu le temps de faire deux orbites. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout à l'équilibre avec le système. Donc grâce à ça, on peut mesurer, en fait, comme on a reproduit toute la courbe de rotation, on peut mesurer la masse d'Andromède, et on trouve une masse de 450 milliards. Alors ça fait beaucoup de milliards, hein, 450 milliards de masse solaire, deux fois la masse du Soleil, mais c'est beaucoup plus petit à nouveau que ce qu'on pensait. Et on retrouve à nouveau la même chose, la matière ordinaire représente un tiers de la masse totale. C'est-à-dire, une autre façon de vous le dire, il n'y a pas assez de masse sombre, pas assez de masse manquante. Donc, la même chose que pour la Voie lactée. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de discussions, etc. Là, on peut comprendre que depuis les années 70, les cosmologistes ont pensé vraiment que l'univers était dominé par la matière sombre. Bien sûr, le fait qu'on n'arrive pas à découvrir quelle est la particule associée à cette matière sombre pose un problème, bien sûr. Ce que je vous ai montré, les deux exemples, je vous ai montré la Voie lactée comme Andromède. On ne dit certainement pas qu'il n'y a pas de masse sombre, on dit qu'il y en a beaucoup moins. C'est quand même très différent. Et la question, c'est pourquoi on pensait que la Voie lactée était beaucoup plus massive. On pensait qu'elle faisait, au lieu de faire 200 milliards de masse solaire, on pensait qu'elle en faisait 1000 milliards, 5 fois plus. Vous voyez ? Alors, à l'époque, comme je vous le disais, lorsqu'on observait la Voie lactée et on essayait de trouver la courbe de rotation, je vous ai dit, la courbe de rotation externe, c'est une catastrophe, il y a des points qui sont partout et on ne peut rien mesurer du tout. Ça, c'est le premier aspect. Donc, les astronomes, c'est des gens très malins et en général, ils vont chercher autre chose. On n'arrive pas à voir le disque, allons voir ailleurs. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est de regarder les amas globulaires. Les amas globulaires, c'est les toutes petites taches que vous voyez ici, qui sont en général dans le halo de la Voie lactée, qui environne la Voie lactée. Et avec ces amas globulaires, à partir du moment où on suppose qu'ils sont à l'équilibre, on peut aussi faire une estimation de la masse grâce à la même chose. Toujours l'équilibre entre la vitesse, d'une part, et la masse et la gravité. Et puis, ils ont aussi considéré de prendre cette fois des galaxies naines. Les galaxies naines, on n'en voit pas ici parce qu'elles sont beaucoup trop faibles. Même sans lumière, on ne les verrait pas. Parce que c'est des objets qui sont extrêmement, extrêmement ténus. Et c'est comme ça qu'on était arrivé à une estimation de la masse de la Voie lactée extrêmement grande, beaucoup plus grande que ce qui semble être la réalité. Alors là, se posent des problèmes de dynamique et de compréhension de la dynamique. On sait que les étoiles de la Voie lactée ont des orbites circulaires, elles tournent autour dans le disque, comme notre Soleil, elles ont des petits mouvements latéraux, mais qui sont tout petits et assez négligeables. Avec ces étoiles, on arrive à mesurer la masse, précisément, c'est à l'équilibre, et puis il y a ce fameux déclin keplérien qui nous permet vraiment de mesurer la masse totale. Pour les autres objets, il faut montrer la même chose. Il faut montrer que ces objets sont bien à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de faire un certain nombre d'orbites autour de la Voie lactée pour qu'on puisse estimer la masse. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le grand nuage de Magellan, là, c'est le joyau de l'hémisphère sud. C'est quelque chose d'absolument magnifique. dans l'hémisphère sud. Le Grand Nuage de Magellan, on sait, et ça maintenant c'est connu depuis 2007, on sait que le Grand Nuage de Magellan, c'est pas du tout un satellite de la Voie lactée, c'est un objet qui vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver au plus près de ce qu'on appelle le péricentre de la Voie lactée. Alors maintenant, si vous prenez un objet qui vient juste d'arriver, il vient d'arriver avec une certaine vitesse. Si vous vous trompez et vous considérez que cette vitesse, c'est la vitesse qui permet d'être en équilibre avec le champ gravitationnel de la Voie lactée, vous allez avoir un gros problème, parce que vous allez évidemment surestimer la masse. Vous allez utiliser une vitesse en trop, hein, la vitesse initiale de l'objet, pour mesurer la masse. Et vous voyez ici, j'ai reproduit la même courbe, et si vous supposez le Grand Nuage de Magellan en équilibre, ben, la courbe, elle se casse la figure entre 17 et 26 kg par sec, et puis il faudrait qu'elle remonte. Vous voyez, il faudrait qu'elle remonte. Alors ça, en physique, en dynamique, vous pouvez répondre à ça. J'appelle ça le problème des haltères. Prenez des haltères et amusez-vous à les faire tourner très rapidement. Qu'est-ce qui va vous arriver, à votre avis? Vous allez vous casser la figure. Ce n'est pas à l'équilibre. Vous ne pouvez pas avoir un système, d'accord, dont la masse est fixée au centre et puis au bord, d'un seul coup, il y a une autre masse. Hein, le résultat, c'est que si tout ça tourne, ça se casse la figure. Donc ce n'est pas à l'équilibre. Alors, pour aller un peu plus simplement, on peut se poser la question de comment on mesure la masse. Je vous ai dit, la rotation, c'est génial. Hein, la courbe de rotation, c'est génial, parce que normalement, si vous êtes assez précis et que vous avez toutes les quantités avec vous, ben, vous allez pouvoir préciser vraiment, de façon remarquable, la masse de la Voie lactée ou d'une galaxie. On peut prendre des amas globulaires qui, eux, par exemple, ont des orbites qui ne sont pas forcément circulaires, elles peuvent être elliptiques, d'accord, et elles suivent ce qu'on appelle une excentricité. Alors, une excentricité, ben, une excentricité de zéro, c'est circulaire. Une excentricité jusqu'à 1, c'est extrêmement elliptique. Et au-delà de 1, ben, c'est hyperbolique. Le Grand Nuage de Magellan, son excentricité, c'est de 1,2. C'est pour ça que je vous disais, si vous amusez à utiliser le Grand Nuage de Magellan pour mesurer la masse de la Voie lactée, ça ne va pas le faire. Mais vous avez sans doute tous entendu parler d'Oumuamua. Vous savez, cet objet qui est passé près du Soleil il y a 6-7 ans, si je ne m'abuse, et qui a été pris par certains comme étant un vaisseau extraterrestre. Mais là, je ne m'intéresse pas du tout à l'aspect du vaisseau, je m'intéresse uniquement à la dynamique. Imaginez que vous preniez Oumuamua. Oumuamua a exactement la même excentricité que le Grand Nuage de Magellan. Ben, avec ça, vous avez tout. Vous avez les vitesses, les positions. Vous pouvez mesurer la masse du Soleil. Vous avez une idée de ce qu'on trouve si on fait ça? Ben, on trouve que le Soleil fait deux fois la masse du Soleil. Vous voyez? Et c'est normal. Vous avez utilisé une orbite hyperbolique. D'accord? Vous avez utilisé une vitesse initiale. D'accord. L'objet Oumuamua est parti forever. D'accord. Et la masse que vous allez estimer va être évidemment trop grande parce que vous avez utilisé une vitesse qui ne correspond pas à l'équilibre. Alors si on continue cette analogie avec les excentricités, on peut aller un cran plus loin. On peut aller un cran plus loin et regarder ce que font les amas globulaires. En fait, vous voyez qu'on connaît 156 amas globulaires dans la Voie lactée. On peut donc mesurer leur excentricité et attribuer cette excentricité qui dépend de la masse, l'attribuer aux différentes masses. Vous voyez que je suis parti en bas, la masse qui est en bas est la masse que nous mesurons actuellement pour la Voie lactée, 200 milliards de masses solaires, et puis on va augmenter cette masse jusqu'à 7 fois ça. Et vous apercevez que bah, les amas globulaires, pour la quasi-totalité, bah, ils sont tous avec des excentricités plus petites que 1, c'est-à-dire qu'avec les amas globulaires, oui, vous pouvez mesurer la masse. À l'exception de 2, qui ont le mauvais goût d'être avec des excentricités plus grandes que 1 et pour lesquelles on sait que ces amas viennent d'arriver, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'équilibre. Maintenant, regardons les galaxies naines. Alors, les galaxies naines, c'est assez catastrophique parce que vous n'arrivez pratiquement jamais à les confiner à des excentricités plus petites que 1. C'est-à-dire que si vous considérez que les galaxies naines sont à l'équilibre avec le potentiel de la Voie lactée, vous avez immédiatement défini la masse de la Voie lactée qui fait 1500 milliards de masses solaires. truc énorme. On s'aperçoit, bah, vous voyez que, en fait, l'excentricité des galaxies naines bah, dépend en fait de la masse, uniquement. Donc, c'est des objets qu'on peut se poser des questions sur ces objets, sur leur équilibre. Alors, là, si on essaie de comprendre en fait les limites des méthodes, c'est la Voie lactée, à partir de la masse de la Voie lactée mesurée à partir de la courbe de rotation est bien mesurée. Les amas globulaires, à l'exception de deux d'entre eux sur 156, nous donnent le même type de mesure. Par contre, les galaxies naines nous donnent quelque chose de complètement, complètement différent. Donc il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut utiliser ces objets pour essayer de connaître la masse de la Voie lactée à des rayons plus grands? Donc la première question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que les galaxies naines, ces petites galaxies qui environnent la nôtre, sont à l'équilibre avec le potentiel, la masse de la Voie lactée? Et puis sinon, si ce n'est pas vrai, bah, d'où elles viennent? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ça, en fait, on a établi ce qu'on appelle le passé de notre galaxie, ce qu'on appelle l'histoire d'accrétion de notre galaxie. Comment notre galaxie est devenue notre galaxie? Alors, un petit aparté, un tout petit peu plus théorique, dans lequel, en fait, on a observé depuis les premières simulations numériques, on s'est rendu compte en fait qu'une galaxie grossissait par accrétion successive de galaxies, d'accord, et que dans le passé lointain, il y a 12 milliards d'années, on va dire, par exemple, notre galaxie était absolument minuscule. Elle n'avait pas encore accrété l'essentiel de sa masse. Elle avait la taille du petit nuage de Magellan il y a 12 milliards d'années. C'est en réalité 200 fois plus petite. Vous voyez, c'était tout petit, la Voie lactée, il y a 12 milliards d'années. Donc, qu'est-ce qui se passait? Notre galaxie a accrété d'autres galaxies. C'est bien normal. Mais elle a accrété des galaxies qui étaient très proches d'elle, puisque son rayon d'accrétion, le rayon dans lequel elle pouvait accréter d'autres objets, était absolument minuscule, puisqu'elle était minuscule. Et puis, au fur et à mesure qu'elle a grossi avec le temps, elle a commencé à être capable de capturer gravitationnellement des objets de plus en plus lointains. En conséquence, il y a une relation en fait entre les objets qui sont au centre de la Voie lactée et les objets qui sont au bord. Et c'est ce que montrent les simulations numériques ici. En fait, quand vous êtes au centre, vous avez ce qu'on appelle une énergie de liaison gravitationnelle qui est considérable. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'extraire de la Voie lactée des objets qui sont proches de son centre. Hein, l'énergie que vous avez besoin est gigantesque. Par contre, pour des objets qui sont au bord, vous n'avez absolument aucune difficulté. Et on comprend bien que donc, les premiers objets qui ont été accrétés sont au centre, avec des énergies de liaison très grandes. La galaxie grandit. D'accord ? Il devient de plus en plus difficile d'extraire des objets au centre. Par contre, vous continuez à accréter des objets du bord vers le centre. Donc vous avez une relation entre ce qu'on appelle cette énergie de liaison gravitationnelle et l'époque d'accrétion. Et vous voyez ici, les objets en rouge ici sont les objets les plus proches et les objets en bleu sont les objets les plus éloignés. Alors, je vais vous donner une analogie beaucoup plus simple. Je ne veux pas trop compliquer les choses. Et ça tombe bien, il a beaucoup neigé, ces temps-ci. L'analogie qu'on va faire, c'est avec une boule de neige. Imaginez que vous avez une petite boule de neige, c'était la Voie lactée, dans le passé, toute petite. Et puis vous amusez à la faire rouler dans un champ de neige et vous allez faire grossir votre boule de neige. À la fin, vous allez trouver une boule de neige absolument gigantesque. D'accord ? C'est un peu comme ça que la Voie lactée s'est construite, hein, en attirant de la matière qui vient de l'extérieur. Imaginez que malheureusement, une personne est malencontreusement laisser sa bague dans la petite boule de neige. Et puis, vous continuez. Hein, la boule de neige est devenue gigantesque. Ben, pour récupérer la bague au centre de l'énorme boule de neige, ben, il va vous falloir une sacrée énergie. C'est rien d'autre que ça, l'histoire d'accrétion de la Voie lactée. Vous voyez ? Et donc, on a mesuré tout ça. Tout ça a été mesuré. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'énergie, ici, ce que vous voyez, c'est un diagramme qui contient la même énergie dont je vous parlais, et puis ce qu'on appelle le moment angulaire autour du disque. On va s'intéresser surtout à l'énergie. Puis vous apercevez que les objets qui sont qui ont les énergies de liaison les plus grandes, ben c'est des objets qui sont autour de notre du bulbe de notre galaxie, du centre de notre galaxie. Et puis, si vous continuez un petit peu le jeu, vous allez trouver une ancienne collision qui a eu lieu il y a 11,5 milliards d'années, qui s'appelle Kraken. Et puis la grande collision dont je vous ai parlé, qui s'appelle Gaïa-Sos-Enceladus. Et puis finalement, la petite galaxie du Sagittaire dont je vous ai parlé, qui est tombée il y a 6 milliards d'années. Et en fait, on s'aperçoit que cette relation, elle est parfaitement linéaire. C'est exactement ce qu'on s'attend théoriquement. Donc on connaît l'histoire d'accrétion de notre Voie lactée, et du coup, on peut en déduire énormément de choses. Parce qu'on peut juste l'extrapoler, et on se rend compte qu'on trouve quoi ? Ben, on trouve les galaxies naines. Parce qu'on connaît l'énergie des galaxies naines, donc ça veut dire que les galaxies naines, en fait, sont arrivées il y a moins de 3 milliards d'années. Je trouve que la marchée serait bien. Oups, excusez-moi. Elles sont arrivées il y a moins de 3 milliards d'années. Et par conséquent, en fait, en 3 milliards d'années, elles sont tellement éloignées du centre de la Voie lactée qu'elles n'ont même pas eu le temps de faire une orbite. Donc elles ne sont pas à l'équilibre. Elles viennent d'arriver comme le grand nuage de Magellan. Donc on ne peut pas les utiliser pour mesurer la masse de la Voie lactée. Donc on a résolu le problème. On sait pourquoi, à l'époque, on trouvait des masses trop grandes pour la Voie lactée. Et ça a eu un peu de, ça fait un peu de bruit cette histoire aussi parce que bah, l'ESA l'a publié effectivement dans une news pour Gaïa. Et la question qu'on peut se poser, et c'est vraiment le dernier point que je vais vous exposer ici, puisqu'on parle de matière sombre, bah, les galaxies naines sont les objets dans lesquels on pensait qu'il y avait le plus de matière sombre. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de matière sombre que parfois il y avait 1000 fois plus de matière sombre que de matière ordinaire dedans. Et avec ce que je viens de vous raconter, en fait, on est capable maintenant, grâce à la dynamique, de montrer ce qui se passe vraiment dans ces objets. Alors je vais vous donner deux exemples. Vous regardez les deux galaxies sur la gauche. Une s'appelle la galaxie du fourneau, ou Fornax en anglais. L'autre s'appelle la galaxie du sculpteur. Sculpteur en anglais. Et ces deux galaxies sont des galaxies qui orbitent à peu près entre 100 et 150 kiloparsecs, elles sont assez loin de la Voie lactée. Elles n'ont pas du tout de gaz, elles n'ont aucun gaz, elles n'ont que des étoiles. Et c'est à partir du mouvement de ces étoiles qu'on a déduit des masses sombres aussi élevées, extrêmement élevées, beaucoup plus grandes que la masse observée. Alors maintenant, on peut s'intéresser aux autres galaxies naines, parce que ça, c'est les galaxies naines qui sont, entre guillemets, relativement proches de notre Voie lactée. Maintenant, on peut aller chercher des galaxies qui sont 10 fois plus loin. Et là, on trouve des galaxies comme la galaxie de WLM, c'est les initiales des trois découvreurs. Et on s'aperçoit que, oui, il y a aussi des étoiles, mais c'est bourré de gaz. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec le contraste. Ça, je ne sais pas si ça passe. Elles sont entourées de tellement de gaz, en fait, là, il y a beaucoup plus de gaz que d'étoiles dans les galaxies qui sont à l'extérieur de notre Voie lactée. La question, c'est... Ben, je vous ai dit, la Voie lactée, pour se construire, ben, elle a accrété des objets. Elle a accrété ces galaxies naines. Pas celle-là, elle est trop loin. Donc, il faut essayer de comprendre comment on est passé de celle-là, les galaxies externes, à une galaxie qui est dans l'environnement de la Voie lactée. Et ça, c'est une question auquel les astronomes ont répondu depuis assez longtemps maintenant. C'est qu'en fait, notre Voie lactée, elle est un peu plus complexe que ça. Autour de la Voie lactée, comme dans toutes les grandes galaxies, il y a aussi un gaz très ténu, très chaud, 1 million de degrés, d'accord, sur de très grandes étendues, qui n'est pas à l'équilibre avec le potentiel de la Voie lactée, qui est tellement chaud qu'il n'est pas à l'équilibre, et qu'on a du mal à détecter, même au rayon X, parce qu'en fait, on est dans la Voie lactée. On arrive à le détecter pour d'autres galaxies, mais pas pour la nôtre. Et ce gaz, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, ce gaz? Quand une petite galaxie qui est bourrée de gaz va tomber dans le halo de la Voie lactée, bah, cette petite galaxie, le gaz de cette petite galaxie va rencontrer ce fameux gaz chaud. Mais qu'est-ce qui va gagner entre la toute petite galaxie et la grande galaxie qui est notre Voie lactée? Bah, c'est la grande galaxie. C'est-à-dire qu'elle va arracher le gaz juste par simple pression dynamique. Elle va arracher le gaz à la petite galaxie. C'est ce qu'on observe pour les grands nuages de Magellan, les deux nuages de Magellan. Et ce que vous voyez ici, c'est une image de tout le ciel, en fait. La Voie lactée est ici. C'est un peu la même image que je vous ai montrée précédemment, à part que c'est dans le gaz, cette fois, c'est dans le gaz H1. Et ce que vous voyez ici, c'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Et vous voyez tout le gaz qu'ils ont perdu. Ils ont perdu une quantité immense de gaz qui en font d'ailleurs la structure la plus grande du ciel. Ça fait 240 degrés sur le ciel. Ça s'appelle le grand courant magellanique. Et en fait, ce gaz a été perdu. Pourquoi? Parce que le grand nuage de Magellan est toujours entouré de gaz, mais il a perdu énormément de son gaz lorsqu'il est rentré dans le halo de la Voie lactée et qu'il a rencontré le gaz chaud de la Voie lactée. Et ce gaz a été poussé vers l'arrière. Le mouvement des nuages Magellan, c'est dans cette direction-là. Oui, il part de là et il va par là. Oui, il a fait tout ce parcours depuis un milliard d'années. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour les galaxies naines? Les petites galaxies naines dont je vous parle, je vous ai montré Sculptor, je vous ai montré Fornax, elles sont beaucoup plus petites que le grand nuage Magellan. Elles sont 100 fois plus petites. Elles, quand elles sont tombées dans la Voie lactée, ça a été plus dur, je dirais, que ce qui s'est passé pour le grand nuage de Magellan, c'est-à-dire qu'elles ont perdu tout leur gaz. Et alors, c'est un processus qui ne se fait pas immédiatement, et ce que je vais vous montrer, c'est une simulation justement de ce processus. En bleu, vous avez le gaz, donc le mouvement de la galaxie est indiqué par la flèche, et vous voyez en fait, au-dessus, le petit insert vous montre le rayon, l'objet qui chute vers le centre de la Voie lactée. Et puis au fur et à mesure, le gaz il est complètement extrait. Il ne reste plus que les étoiles. Ces étoiles ont perdu de la gravité, sont totalement en déséquilibre par tous les mouvements que vous avez vus. Donc vous trouvez avec un système ultra turbulent. D'accord ? Je vais vous simplifier les choses. C'est une gigantesque machine à laver. Hein ? Évidemment, les pauvres étoiles ne peuvent que être hors équilibre. Et on réussit à expliquer grâce à ce phénomène, en fait, ici ce que vous voyez c'est la dispersion de vitesse en fonction du rayon, c'est entre guillemets la courbe de rotation des galaxies naines qu'on explique sans matière sombre. Oui. Alors c'est un peu la conclusion. La première chose qu'on peut dire c'est qu'on n'a jamais eu maintenant, on n'a jamais été capable de mesurer la courbe de rotation de la Voie lactée aussi précisément. Et on attend le prochain release de Gaïa pour gagner encore un petit cran. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la première fois qu'on détecte ce déclin képlérien qui nous permet de mesurer cette masse. Il y a vraiment été une... Je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de masse sombre. Il y a de la masse sombre à partir de cette courbe, mais beaucoup moins. Et puis, que vous preniez Andromède, la grande galaxie d'Andromède ou la Voie lactée, vous vous trouvez avec un problème cosmologique. Il y a trop de matière ordinaire. Préféré, il n'y a pas assez de matière sombre. On ne peut absolument pas utiliser d'autres méthodes comme les galaxies naines pour essayer de mesurer la masse de la Voie lactée, parce qu'elles ne sont pas à l'équilibre. Et puis finalement, on arrive à expliquer ces galaxies hors équilibre, qui sont hors équilibre de tous les points de vue, leurs orbites comme en interne, par des objets dans lesquels il vaut mieux même ne pas avoir de matière sombre. La matière sombre gêne un petit peu, ça je pourrais vous l'expliquer. Voilà, j'ai fini là. Je voulais juste vous montrer aussi un exemplaire du livre dans lequel on parle beaucoup de choses du voyage de la Terre à l'univers et dans lesquels vous retrouvez un certain nombre de choses que j'ai expliquées ici, mais pas toutes parce que je vous ai expliqué des résultats qui sont plus récents. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup François pour cette présentation très large. Alors je vais regarder ce qu'il y a comme questions sur le chat de YouTube. Y a-t-il des questions déjà dans la salle pour débuter? Oui.
Merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais savoir pourquoi, dans la distribution de Gaïa DR3, il y a beaucoup plus d'étoiles que dans DR2. Est-ce que c'est parce que la durée d'observation est beaucoup plus longue ou est-ce qu'on a affiné les techniques de détection ?
Alors la raison principale, ça a été que l'instrument qui s'appelle Radial Velocity Spectrometer, en fait, a mis un peu plus de temps à être mis en place. C'est-à-dire qu'on a récupéré en fait beaucoup plus de données sur Gaïa DR3 qui n'avaient pas eu le temps d'être traitées sur Gaïa DR2. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que ça a duré plus longtemps, bien sûr. On a gagné en nombre d'années un facteur 2, mais le facteur était encore plus grand. Voilà, ça, c'est des raisons un peu internes à la gestion du satellite. En fait.
Ouais. Alors, il y avait une question sur le chat sur les amas globulaires qui arrivaient très tôt dans ta conférence. Tu en as parlé, mais tu ne le remets pas dans ta conclusion. Est-ce que tu peux résumer donc, sur les amas globulaires ? Globalement, ça marche mieux, les amas globulaires
on peut dire que les amas globulaires ont vraiment des excentricités faibles pour la totalité, quelle que soit la masse que vous utilisez. Donc, vous pouvez effectivement prédire la masse à partir des amas globulaires. Donc, c'est des objets qui sont relativement, pour l'essentiel d'entre eux, 154 sur 156, relativement bien à l'équilibre avec la Voie lactée.
Donc en gros, les étoiles dans la Voie lactée, les amas globulaires, tournent à peu près de la même manière.
Voilà.
Une autre question dans la salle, oui ?
Bonsoir, merci pour la conférence. Quelles sont les implications de ces résultats pour la cosmologie primordiale et la matière noire intergalactique ?
Oui, c'est une question tout à fait normale d'abord, première chose. Merci de l'avoir posée, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas voulu trop m'étendre dessus parce que c'est des résultats récents, donc il faut bien comprendre que des résultats récents mettent un certain temps à être acceptés. C'est des choses qui sont absolument normales. La première conséquence qu'on pourrait donner, c'est un petit peu alors c'est pas un oxymore, c'est... Il y a un déficit de masse manquante dans le groupe local. Voilà. C'est peut-être un peu ça qu'on peut dire. C'est ni un pléonasme ni un oxymore. Ça se rapproche du pléonasme. Alors évidemment, ça a des conséquences quand même, parce qu'il n'y a aucune raison, a priori, que le groupe local soit différent des autres. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a quand même des questionnements qu'on peut se faire sur les courbes de rotation plate des galaxies. Donc il y a un questionnement qui est plus large que ça. Évidemment, il est hors de sujet d'essayer de faire ça pour 10 000 galaxies pour lesquelles vous devez avoir toutes les informations pour vraiment mesurer la masse d'une galaxie. Il ne faut pas seulement avoir une courbe de rotation, il faut connaître l'équilibre du système. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Et je dirais que c'est un peu ce que j'avais mis un petit peu en préambule. Il faut connaître très précisément et comprendre la dynamique d'un objet. Pour comprendre un objet, il faut comprendre son évolution, son passé, son histoire, comment il a été formé. Et puis, il faut surtout aussi ne pas oublier des matériaux aussi importants que le gaz. Je vous ai parlé du gaz chaud. En fait, le gaz chaud autour de la Voie lactée n'est pas négligeable. C'est des quantités de matière qui sont assez importantes. Donc, pour revenir sur l'aspect cosmologique, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ces fromages dans lequel on voit que nous ne représentons que 3%, 2%, enfin très peu. Alors c'est très bien, il y a beaucoup d'humilité là-dedans, c'est très très bien, mais c'est peut-être pas complet. En tout cas, dans le groupe local, ce n'est pas ce qui a l'air de se passer. Ce n'est pas ce qu'on a l'air de voir. Alors pourquoi travailler sur le groupe local ? C'est parce que vous avez tout. Vous avez toutes les données. Vous pouvez vraiment faire de la science, c'est merveilleux. Ailleurs, vous faites des approximations, des hypothèses. Donc, je ne peux pas aller tellement plus loin pour vous répondre, mais ça pose des questions, en particulier les courbes de rotation plate des galaxies dans les années 70 ont convaincu toute la communauté qu'il y avait de la matière sombre. Si on avait trouvé un seul facteur 2, puisque là, actuellement, ça a l'air d'être représenté deux fois plus de matière sombre que de matière ordinaire, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Je n'ai pas la réponse. Il faut un historien pour ça.
Merci. Peut-être une question sur le chat. Il y avait des gens qui se posaient des questions sur la forme plate des galaxies. Est-ce que tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais résumer en gros pourquoi beaucoup de galaxies sont plates, certaines ne le sont pas, juste résumer un petit peu les...
Les différents types de galaxies.
Est-ce qui explique ça, ces différences de forme, de morphologie ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que mon épouse n'aime pas du tout, ça s'appelle le moment angulaire. Je vais vous l'expliquer en deux mots. C'est en fait beaucoup plus simple que ça. Si je reviens, vous avez tous vu la simulation que je vous ai montrée sur la collision entre deux galaxies. Lorsque vous avez la collision entre deux galaxies,
il ne va pas vouloir venir. Je vais le mettre là. Tchouk tchouk tchouk. Je vais prendre celui-là, par exemple.
Lorsque vous avez la collision entre deux galaxies, ce que vous allez voir là à nouveau, vous apercevez que vous avez dans cette collision trois systèmes différents de ce qu'on appelle moment angulaire. Moment angulaire, c'est rien d'autre que le produit du rayon par la vitesse. C'est vraiment pas grand-chose. Et comme vous avez deux moments angulaires qui sont associés aux deux galaxies, et puis un moment angulaire qui est associé au mouvement orbital, qui domine en termes d'énergie, c'est de loin le mouvement angulaire orbital. Et en fait, on a compris, et ça c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup participé à l'époque, dans les années 2010, on a compris que c'est comme ça que les galaxies spirales, les galaxies à disque mince, se forment. Elles se forment grâce à l'échange de moments angulaires qui vient des collisions entre les galaxies. Donc ça a été une des preuves de ce qu'on appelle le modèle hiérarchique, ce que je vous ai seriné plusieurs fois en vous disant, bah oui, les galaxies se forment par accrétion successive de galaxies plus petites, jusqu'à former une grande galaxie comme la nôtre, pour laquelle il faut énormément de moments angulaires. Il reste qu'il y a des galaxies qui sont elliptiques, qui n'ont pas de disque mince, et celles-là, en fait, on les explique très bien, on les trouve essentiellement dans ce qu'on appelle les amas de galaxies, on en trouve quelques-unes ailleurs, mais essentiellement les amas de galaxies, et c'est des objets qui, eux, ont subi tellement de collisions qu'elles ont perdu mémoire de leur moment angulaire. Elles se retrouvent sans moment angulaire préférentiel. Alors que j'ai bien insisté sur le fait que la Voie lactée avait subi sa dernière collision il y a 9 milliards d'années. Donc on est vraiment dans une galaxie très sympa, très calme. C'est très important, je pense. Et le moment angulaire de notre Voie lactée vient de cette collision, de la dernière collision. Si vous subissez des collisions tout le temps, même la relation d'accrétion que je vous ai présentée pour la Voie lactée, elle disparaît. Parce que tout est perturbé, tout se casse la figure. C'est ce qui se passe dans une galaxie elliptique.
Merci. Une dernière question peut-être dans la salle ?
Bonsoir. Est-ce qu'on peut imaginer que si on continue à affiner nos approches technologiques et méthodologiques pour mesurer la masse, on arrive à des nouvelles mesures d'une masse encore plus faible qui fassent qu'on n'ait plus du tout besoin d'introduire la notion de matière sombre dans les équations ?
Alors, non, la réponse est négative, en fait. Ça ne marcherait pas parce que, par exemple, quand on a fait ça sur la galaxie d'Andromède, en fait, on a fait ce qu'on appelle un rescaling, c'est-à-dire on a ajusté la courbe de rotation à la masse que proposait le modèle. Et on a fait vraiment un ajustement. Mais on ne peut pas aller plus bas. Donc il reste toujours une masse manquante. La question, c'est quoi ? Et la question va certainement se poser dans les années qui viennent, et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher de la matière. Je dirais que le débat n'est pas fini, voilà.
Eh bien, je vous propose d'arrêter là.
Merci
donc,
beaucoup.
Merci François pour cette présentation. Nous nous retrouvons ici. Donc, merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, à vous qui êtes venus dans l'amphithéâtre. Nous nous retrouvons le 3 février prochain pour la conférence de Jean-Philippe Usan intitulée « Le modèle cosmologique standard entre succès et tension ». Et donc, ceux qui veulent venir y assister dans notre amphithéâtre, les inscriptions sont à partir de demain. Et les autres, vous le suivrez sur YouTube si vous le voulez bien. Voilà, merci, bonsoir.